le journal de la rédaction par vous, Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Des files d'attente interminables, des machines à voter en panne, une tension au plus haut. La République démocratique du Congo se cherche dans la violence un nouveau président. Alors que l'opposition parle de fraudes électorales, nous irons à Kinshasa en début de journal.
Et puis au Bahreïn, la justice a choisi un 31 décembre pour se prononcer discrètement sur un appel lancé par Nabil Rajab. Le militant des droits de l'homme saura aujourd'hui s'il reste ou non en prison pendant 5 ans.
En France, en ce dernier jour de l'année, Emmanuel Macron fera ce soir ses vœux aux Français. Une quinzaine d'association lui demande de ne pas oublier les migrants qui vivent dehors cet hiver.
Et puis 2019 s'ouvre comme se termine 2018 face au mouvement des Gilets jaunes. Certains ont d'ailleurs choisi un réveillon en Gilets jaunes. Ils seront mobilisés ce soir.
Emmanuel Macron sera donc face à un exercice périlleux, nous l'avons compris. En cette fin d'année, dans son billet politique, Frédéric Seitz s'intéressera aux regards allemands sur la France. Grâce à notre correspondant outre-Rhin, Ludovic Piétenu, nous les retrouvons après ce journal. Ce scrutin pourrait donner lieu à la première alternance démocratique de l'histoire de la République démocratique du Congo. Encore faut-il qu'il débouche sur des résultats qui ne soient pas contestés de toutes parts. La présidentielle en RDC, organisée hier, a convaincu les foules. Les files d'attente jusque tard hier soir le prouvent. En revanche, sur le terrain, la logistique n'a pas suivi, même dans la capitale à Kinshasa, Anthony Fouchard.
Tout le monde s'attendait aux défaillances des machines à voter, électroniques. Mais dans la capitale, c'est finalement le papier qui a posé le plus de problèmes. Les listes d'électeurs n'ont pas été imprimées et sans elles, pas de vote. Diokounda Traoré, l'ex-président du Mali, mais aussi observateur du scrutin pour l'Union africaine, tentait d'apaiser la colère.
Vraiment, c'est un scandale. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de liste. C'est pas normal.
Calmez-vous, de toute façon, vous allez voter. Même s'ils doivent voter jusqu'à minuit, ils vont voter.
La commission électorale, consciente du chaos logistique qui se préparait, a décidé d'exclure il y a quelques jours plusieurs provinces reculées du scrutin présidentiel. Une décision qui ne passe pas auprès des électeurs.
À Beni, il y a Ebola. À Yumbi, il y a la guerre. Mais ici, maintenant, à Kinshasa, il y a quoi? Depuis 5 heures, les gens sont là.
Lassés d'attendre, les habitants ont finalement organisé eux-mêmes le vote, fictif, dans des corbeilles en papier, avant d'effectuer le dépouillement. Finalement, c'est le président de la commission électorale en personne qui est venu apporter les listes en fin de matinée, conspué par la foule. Les opérations de vote se sont prolongées toute la nuit.
Anthony Fouchard, depuis Kinshasa pour France Culture. L'opposition dans le pays évoque déjà la mort de 4 personnes au sud de la RDC, parmi lesquelles un policier et un agent électoral. Les résultats de l'élection au Bangladesh sont eux déjà connus ce matin. Le parti de la première ministre Sheikh Hasina remporte ses législatives grâce à une écrasante majorité. C'est ce qu'annonce en tout cas la commission électorale du pays. Des résultats qui sont rejetés par l'opposition. Elle considère que le scrutin est entaché de fraude. Sheikh Hasina, 71 ans, entame son troisième mandat à la tête du gouvernement au Bangladesh. Saluée pour avoir relancé l'économie du pays, elle est aussi accusée de répression à l'égard de l'opposition et de la presse, ainsi que de violation des droits de l'homme. De droits de l'homme, il en est question au royaume du Bahreïn, ou plutôt il n'en est pas assez question, parce qu'il a dénoncé sur le réseau social Twitter la torture pratiquée dans les prisons de son pays. Le militant Nabil Rajab est emprisonné depuis 10 mois maintenant. Un ultime recours doit être examiné aujourd'hui. Nabil Rajab a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour avoir aussi et surtout critiqué la guerre au Yémen et la coalition menée par l'Arabie Saoudite, Valérie Krova.
Quand il a été condamné à 5 ans de prison en février dernier, Nabil Rajab a souri. Un acte de défi et de résistance face à la prétendue justice de son pays, qui a étouffé toute contestation et opposition depuis 2011 et les manifestations déclenchées dans le sillage des printemps arabes. 5 ans de prison, c'est le prix à payer pour avoir critiqué l'Arabie Saoudite et ses alliés, dont Bahreïn, pour leur rôle dans la guerre au Yémen. Nabil Rajab a été reconnu coupable d'avoir propagé des rumeurs et d'avoir insulté un pays voisin. Souffrant d'hypertension et de dépression, Nabil Rajab dépérit. Incarcéré avec des terroristes et des membres de l'État islamique, il n'a droit qu'à 2 visites par mois et ne peut pas lire de livres. Aujourd'hui, 31 décembre, c'est le dernier appel possible devant la Cour de cassation de Bahreïn pour obtenir son éventuelle libération. Pour son fils Adam, la date n'a pas été choisie au hasard. Quoi de mieux qu'un réveillon du nouvel an pour dissimuler de mauvaises nouvelles, a-t-il écrit. Si sa peine est confirmée, Nabil Rajab restera en prison jusqu'en 2023.
Et justement, à l'instant, la Cour de cassation du Bahreïn vient de rejeter le recours déposé par l'opposant Nabil Rajab, qui va donc, a priori, rester en prison jusqu'en 2023. Valérie Krovac, nous venons d'entendre, a joint Dimitris Christopoulos, qui préside la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour lui, le cas de Nabil Rajab reflète une situation catastrophique globale au Bahreïn.
Nabil n'est que la personne la plus connue, la plus fameuse au niveau mondial, mais il n'est pas seul, malheureusement. Il y a d'autres personnes aussi, il y a des enfants qui sont incarcérés dans les prisons bahreïniennes. Toute opposition politique est considérée comme être manipulée par les autorités iraniennes. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle contre la guerre menée par l'Arabie Saoudite en Yémen, quelqu'un qui parle contre l'alliance entre la Bahreïn et l'Arabie Saoudite, il est considéré comme un traître, comme quelqu'un qui est payé par l'Iran. Voilà ce qui paye Nabil, voilà ce qui paye toute l'opposition à Bahreïn à ce moment-là. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une situation où le big partner, les États-Unis dans la région, a informé une alliance directe avec l'Arabie Saoudite, et l'administration du président Trump s'en fout de la situation de défenseur des droits humains. Et ça, c'est une situation qui rend notre lutte beaucoup plus difficile.
Elle aussi a critiqué son gouvernement. Une militante égyptienne a été condamnée hier à 2 ans de prison en appel. Dans une vidéo, elle avait accusé les autorités égyptiennes de ne pas protéger les femmes du harcèlement sexuel. Cela lui vaut donc 2 ans de prison. Amal Fati pourrait de ce fait être arrêtée à tout moment dans l'attente d'un recours devant la Cour de cassation. La militante avait déjà été arrêtée en mai dernier après une autre vidéo. Elle avait été libérée il y a quelques jours seulement. Il avait été l'un des premiers à fustiger le retrait annoncé des troupes américaines en Syrie. Le voilà rassuré. Le sénateur républicain Lindsey Graham s'est entretenu hier à la Maison-Blanche avec Donald Trump. Et le président américain l'a donc rassuré. Trump aurait compris, lors de son voyage à Noël en Irak, la nécessité, je cite, de finir le travail contre le groupe État islamique. L'Irak, justement, qui pourrait être plus actif sur le terrain syrien après le retrait américain, c'est ce que laisse entendre le Premier ministre irakien en accord avec le régime syrien.
8h08, la suite du journal sur France Culture et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui interpelle les Britanniques.
En leur demandant de se ressaisir avant le vote de la Chambre des communes prévu mi-janvier, les députés doivent se prononcer sur l'accord proposé par Theresa May à propos du Brexit. Ce sera donc dans 15 jours et le flou ambiant en Grande-Bretagne semble agacer Jean-Claude Juncker, Marina Daras.
Reprenez-vous et dites-nous ce que vous voulez. Un message clair de la part du président de la Commission européenne qui s'étonne qu'une partie de l'opinion publique britannique pense que c'est à l'UE seul de proposer une solution à tous les futurs problèmes du Royaume-Uni. Dans un entretien avec un journal dominical allemand, Jean-Claude Juncker rappelle également que les solutions proposées par l'UE sont sur la table depuis des mois et que ce sont les Britanniques qui tardent à prendre des décisions. Il a par ailleurs ajouté que si les législateurs de la Chambre des communes approuvent l'accord de retrait à la mi-janvier, les négociations sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'UE pourront commencer dès le lendemain. À seulement 2 semaines du vote au Parlement, difficile de savoir si le message de Jean-Claude Juncker aidera ou pas les députés à faire un choix alors que la situation semble se crisper outre-Manche. Le secrétaire au commerce international, Liam Fox, un Brexiteer notoire, déclarait d'ailleurs hier au Sunday Times qu'il y avait d'après lui une chance sur deux pour que le Royaume-Uni ne quitte pas l'UE le 29 mars prochain si les députés décidait de rejeter l'accord de sortie conclu par Theresa May. Et selon Liam Fox, si l'accord était rejeté, cela briserait pour toujours le lien de confiance entre l'électorat et le Parlement.
Marina Daras, notre correspondante à Londres. Et si les Britanniques cherchent toujours une porte de sortie de l'Union européenne, ils négocient parallèlement avec la France face aux traversées incessantes de migrants dans la Manche. Paris et Londres ont convenu tard hier soir d'un plan d'action renforcé. Plus de patrouilles de surveillance, des actions communes pour démanteler les gangs de trafiquants et une sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche. Toutes ces mesures seront déployées près de Calais. Depuis le 23 décembre dernier, près d'une centaine de personnes ont été secourues en mer par les autorités françaises ou britanniques. Elles avaient tenté à chaque fois la traversée sur de petites embarcations malgré le vent et le froid. Des personnes, des migrants qui, en rêvant d'une traversée ou simplement d'un avenir meilleur, vivent dehors actuellement en France, à Calais, Grande-Synthe, Ouistreham ou Paris. Hier, dans le journal du dimanche, 14 associations accusaient l'État français de mettre délibérément en danger les migrants. Aujourd'hui, 31 décembre, elles espèrent qu'Emmanuel Macron, pour ses vœux aux Français ce soir, ne va pas oublier ce sujet. Anne-Marie Bredin représente le collectif Solidarité Migrants Wilson. Elle ne se fait pourtant pas d'illusions.
Là, il y a une sorte de non-action qu'on constate et ça tourne en rond et la situation est pire qu'avant. On espère qu'il va accorder du temps à ce sujet. Je sais qu'il a plein d'autres sujets, mais c'est un sujet préoccupant. Qu'il exprime qui va prendre en charge les personnes qui échouent sur le territoire français au lieu de faire comme si ces personnes n'existaient pas, qui va s'en occuper réellement, faire en sorte que les gens ne soient pas dans la rue, dans les bois, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, sans manger, mais c'est inhumain ce qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait dire? C'est s'engager réellement à des actions rapides, d'urgence, et au-delà de l'urgence, c'est des actions pérennes, quelque chose qui fait en sorte que les personnes qui arrivent en France sont prises en charge comme dans d'autres pays, quoi. Je vois pas pourquoi, du jour au lendemain, il y aura un message très fort. Mais bon, on peut toujours y croire. Hein.
Voilà pour les attentes, les espoirs de certaines associations avant les traditionnels vœux du président de la République ce soir à 20h. Emmanuel Macron s'exprimera depuis l'Élysée pour la première fois depuis le 10 décembre, quand il avait alors annoncé des mesures face à la mobilisation des Gilets jaunes. Exercice périlleux, donc, en pleine crise sociale. D'autant qu'au même moment, ce soir également, des Gilets jaunes, justement, vont se retrouver sur les champs Élysées. Des rassemblements sont également prévus à Nice et à Bordeaux. Bordeaux, où Tina, 56 ans, sera dans la rue. Elle travaille à l'hôpital, gagne 1400 euros par mois et elle veut que 2019 débute aussi en jaune.
C'est de bon enfant, montrer que ben, malgré que la nouvelle année va arriver, ben, on sera encore là. Pour 2019, on sera là tant que Macron ne lâchera pas. De toute façon, on n'a pas les moyens d'aller faire la fête, hein, parce que maintenant, il faut compter entre minimum 30 euros, 50 euros pour aller faire la fête. Même un repas comme ça, entre amis, ben, non, je préfère être là. On veut un vrai pouvoir d'achat pour pouvoir vivre, pouvoir payer nos factures, sans dire on paye la facture, mais on n'aura rien à manger. Parce qu'en fait, c'est ça. Une fois que toutes nos factures sont déduites de nos salaires, qu'est-ce qui reste? Rien. Moi, il y a quelques années de ça, j'avais un crédit de maison, je m'en sortais mieux que maintenant. J'ai plus de crédit de maison et je m'en sors pas. Je gagne 1400 euros. J'y arrive pas. Donc, c'est pas normal.
Voilà le témoignage de Tina, gilet jaune sur le dos, interrogée pour nous par France Bleu Gironde. Épreuve encore que les ennuis pour le gouvernement ne vont pas s'arrêter à l'entrée en 2019. Alexandre Benalla parle une fois encore au site d'information Mediapart. L'ancien collaborateur de l'Élysée affirme avoir continué à échanger régulièrement avec Emmanuel Macron depuis son licenciement cet automne, et ce via la messagerie Telegram. Alexandre Benalla précise avoir conservé la preuve de ces échanges sur son téléphone portable. Il est au cœur, rappelons-le, depuis une semaine d'une nouvelle controverse politico-judiciaire pour ne pas avoir restitué ses deux passeports diplomatiques lors de son licenciement. Alexandre Benalla assure qu'il rendra ses documents dans les prochains jours. Une enquête préliminaire a été ouverte. En bref, encore un détenu est parvenu à s'évader hier après-midi de la prison de Fresnes au sud de Paris. Il a franchi le mur d'enceinte malgré les tirs de certains surveillants. Connu pour des faits de banditisme, il venait d'être condamné à 3 ans de prison pour justement s'être évadé d'un tribunal. Une prolongation de plus pour la garde à vue de Carlos Ghosn au Japon. Le PDG de Renault reste en détention au moins jusqu'au 11 janvier. Il est toujours soupçonné d'abus de confiance, en plus du premier dossier sur fraude fiscale. Le procureur de Tokyo a obtenu ce délai de 10 jours supplémentaires pour décider ou non de l'inculper ensuite sur ses nouvelles charges. Il l'accuse en fait d'avoir causé un préjudice au groupe automobile Nissan, Frédéric Charles.
Le parquet de Tokyo accuse Carlos Ghosn d'avoir fait passer dans les comptes de Nissan des pertes de 14,5 millions d'euros pour des investissements personnels en bourse au moment de la crise financière de 2008. Pour résoudre ce problème, l'ex-patron de Nissan et toujours PDG de Renault aurait obtenu qu'un ami milliardaire saoudien, Khaled Al-Jufali, se porte garant de cette perte. Carlos Ghosn l'aurait remboursé en puisant dans un fonds interne du constructeur japonais, la réserve du patron, un montant équivalent viré sur le compte du milliardaire saoudien par le biais d'une filiale de Nissan au Moyen-Orient. La détention de Carlos Ghosn risque de durer. Comme tout suspect, au Japon, il peut être placé en garde à vue de manière répétée dans une même affaire pour des accusations différentes. L'ex-patron de Nissan nie toute malversation.
Frédéric Charles, depuis Tokyo pour France Culture. Une légère perturbation pluvieuse va traverser ce matin le nord de la Loire. Elle restera sous le brouillard alors que le soleil va briller sur le sud du pays dès le lever du jour. Le temps s'annonce plus sec ensuite au nord cet après-midi, toujours nuageux en revanche. Pour les températures, il faut compter 3 degrés ce matin à Besançon et à Bordeaux, 5 à Lyon, 8 degrés à Lille et à Rennes, 9 degrés ce matin à Paris, 11 à Nice, 14 à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal.